Super. Alors, bienvenue à tous. Toujours une bénédiction d'apporter la parole de Dieu, d'autant plus durant le temps des fêtes. Première fois pour moi, une prédication de Noël dans ces temps de l'Avent. Alors, comme vous avez vu, ma designer, ma femme, m'a décoré en beau sapin de Noël. Alors, vert et rouge pour l'événement. Alors, sans plus tarder, je vais vous redire l'histoire de la crèche à la croix. Et puis, nous allons ouvrir ensemble et se lever en Luc, chapitre 2, versets 1 à 20. En ces temps-là, parut un édit de César Auguste, ordonnant un recensement de toute la terre. Ce premier recensement eut lieu pendant Quirinus était gouverneur de Syrie. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph aussi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David, afin de se faire inscrire avec Marie, sa fiancée, qui était enceinte. Pendant qu'ils étaient là, le temps où Marie devait accoucher arriva, et elle enfanta son fils premier-né, l'emmaillota et le coucha dans une crèche, parce qu'il n'y avait pas de place pour eux dans l'hôtellerie. Il y avait dans cette même contrée des bergers qui passaient dans les champs et les veilles de la nuit pour garder les troupeaux. Et voici un ange du Seigneur leur apparut, et la gloire du Seigneur resplendit autour d'eux. Ils furent saisis d'une grande frayeur. Mais l'ange leur dit, « Ne craignez point, car je vous annonce une bonne nouvelle qui sera pour tout le peuple le sujet d'une grande joie. C'est qu'aujourd'hui, dans la ville de David, il vous est né un sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Et voici à quel signe vous le connaîtrez. Vous trouverez un enfant emmailloté et couché dans une crèche. » Et soudain, il se joignit à l'ange une multitude de l'armée céleste, louant Dieu et disant, « Gloire à Dieu dans les lieux très hauts, et paix sur la terre parmi les hommes qui l'agréent. » Lorsque les anges les eurent quittés pour retourner au ciel, les bergers se dirent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Ils y allèrent en hâte et ils trouvèrent Marie et Joseph et le petit enfant couché dans la crèche. Après l'avoir vu, ils racontèrent ce qui leur avait été dit au sujet de ce petit enfant. Tous ceux qui les entendirent furent dans l'étonnement de ce que leur disaient les bergers. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur, et les bergers s'en retournèrent, glorifiant et louant Dieu pour tout ce qu'ils avaient entendu et vu, et qui était conforme à ce qui leur avait été annoncé. Amen. On peut s'asseoir. Alors, en ces jours-là, parut un décret de César Auguste. César Auguste était alors au sommet de sa puissance. Après des décennies de guerres civiles qui ont déchiré la République romaine, César Auguste apparaît comme celui qui a restauré l'ordre, la stabilité et la paix dans tout l'Empire. Son règne inaugure ce que l'on appelle la Pax Romana. À l'échelle de l'Empire, cette paix est célébrée comme un accomplissement majeur après des décennies de guerres civiles. Elle garantissait la stabilité, l'ordre et une certaine prospérité, mais elle demeurait une paix qui était imposée, maintenue par la contrainte militaire et administrative. Ce qui est vécu comme une bénédiction à Rome et dans les centres de pouvoir de l'Empire sont souvent exprimés dans les provinces comme la Judée sous la forme d'une domination qui est lourde, qui est exigeante. Mais pourtant, dans le discours impérial, cette soi-disant paix est présentée comme un don quasi providentiel pour le peuple de l'Empire. Auguste ne se présente donc pas seulement comme un chef politique habile ou un administrateur efficace, mais il se donne comme le garant du destin du monde. Les inscriptions impériales de l'époque montrent à quel point sa figure est profondément théologisée. Dans l'inscription de Priène, datée de 9 avant Jésus-Christ, la naissance d'Auguste est proclamée comme le commencement de la bonne nouvelle, l'Évangélion, pour le monde entier. Son anniversaire est décrit comme l'ouverture d'une ère nouvelle, placée sous le signe de l'espérance, de la paix et de la prospérité pour la nation romaine. Auguste y apparaît comme un être envoyé par les dieux, présenté en termes quasi divins lui-même, celui par qui l'histoire humaine trouve enfin son orientation et son sens. Le pouvoir impérial ne se contente pas de gouverner les peuples, il sacralise son autorité et propose une lecture théologique de l'histoire dans laquelle le salut du monde est lié à la personne même de l'empereur. Une autre inscription qu'on a retrouvée, conservée à Halicarnasse, va dans le même sens. Auguste est célébré comme le père de sa patrie, hérité de Zeus, sauveur du monde, celui qui apporte l'harmonie entre les nations, la paix sur la terre et l'abondance. La paix, la sécurité, l'ordre du monde sont rattachés directement à sa personne. Le pouvoir politique devient ainsi porteur d'un discours religieux. L'empereur n'est plus seulement celui qui gouverne, mais celui qui sauve. Le vocabulaire religieux qu'on donne à César, fils de Dieu, sauveur, qu'il est la bonne nouvelle, la paix, est mobilisé pour sacraliser le pouvoir impérial et légitimer son autorité universelle sur l'Empire romain. Alors, Luc, dans ce langage, il est très conscient de ce langage-là, mais il ne s'y soumet pas et n'en dépend pas lorsqu'il décrit le Christ. Lorsqu'il proclame Jésus comme sauveur, forcément, il fait appel à cette opposition-là avec l'empereur, le véritable sauveur. En nommant que, justement, Jésus est le Seigneur et le porteur de la réelle bonne nouvelle. Il n'attribue pas au Christ des titres qui sont empruntés à une figure terrestre pour les conférer artificiellement au Christ qu'il publie. Mais il confesse une vérité qui précède toute construction humaine, politique et toute prétention humaine de divinité. L'identité véritable de Christ, telle qu'elle s'inscrit dans le dessein éternel de Dieu. Alors, en annonçant cette vérité au cœur d'un monde saturé de discours impériaux, Luc en dévoile la portée réellement critique et éternelle de la personne qu'il décrit, le Christ, celui qui est le véritable sauveur de son peuple. Ce que la figure de l'Empire revendique à tort pour lui-même, l'Évangile l'annonce comme la réalité. Le sauveur du monde ne règne pas à Rome, mais à Bethléem, il est couché dans une crèche. Pour ce qui est du recensement impérial qu'on lit dans les deux premiers versets, ça représente une prétention qui est totalisante du pouvoir humain, une volonté de maîtriser, de posséder et d'assujettir l'ensemble du monde habité. Compter, ce n'est pas seulement mesurer, c'est revendiquer un droit de regard, de contrôle. Le compter, c'est dire « ce peuple m'appartient ». Et cette affirmation-là peut seulement être vraie de Dieu. Seul Dieu est légitime pour compter Israël. Israël est un peuple appelé, élu et constitué par Dieu et nul autre. Le peuple exige d'abord, le peuple existe plutôt d'abord comme une réalité d'alliance, avant d'exister comme une entité qui est démographique. Alors, c'est pourquoi dans l'Écriture, le recensement n'est légitime que lorsqu'il est ordonné par Dieu lui-même et intégré à son dessein, par exemple, pour organiser la vie du peuple ou le conduire dans l'histoire de l'Alliance. Luc choisit de raconter cet événement avec un angle différent. Dans le grec de Luc, le sujet du verbe n'est pas César dans cette première phrase-là, mais le dogma, le décret. Un décret sorti de la part de César Auguste. Luc aurait pu mettre en scène l'empereur comme un agent direct de l'action, mais il préfère faire du décret lui-même le moteur du récit. Alors, on va voir pourquoi c'est important. Lorsque Luc écrit « En ces jours-là parut un édit de César Auguste », il ne nie nullement l'origine impériale de la décision, de la personne même de César. Historiquement et politiquement, le recensement révèle bien de l'autorité de l'empereur qui est souverain à Rome. Mais par ce déplacement que fait Luc, du sujet qui est le décret, non pas César, la domination n'est alors pas présentée comme l'expression d'une volonté personnelle ou une cruauté qui est intentionnelle, mais comme le fonctionnement impersonnel d'un système qui s'impose à tous. Joseph et Marie ne sont pas confrontés à César directement, mais ils sont confrontés à une règle devenue un peu anonyme, abstraite, mais néanmoins qui est contraignante. Le pouvoir se manifeste ici sous la forme d'un mécanisme administratif présenté comme normal et nécessaire, pour l'Empire du moins. Et c'est précisément cette normalité-là qui rend l'oppression d'autant plus efficace et plus difficile à contester. Alors, la souffrance n'est pas toujours le fruit d'un mal volontaire dirigé vers nous, mais peut être produite par des structures dans la société qui agissent sans se percevoir elles-mêmes comme injustes. Il est intéressant, à mon avis, de mettre cette perspective en dialogue avec l'Évangile selon Matthieu. Chez Matthieu, la violence a là un visage, celui d'Hérode. Le pouvoir y est personnel, jaloux, conscient de la menace que représente l'enfant, et la persécution est délibérée envers Jésus. Chez Luc, au contraire, il n'y a pas de persécuteur nommé qui vise Jésus spécifiquement, personnellement, comme dans l'Évangile de Matthieu. La contrainte, comme je l'ai dit, naît d'un système qui fonctionne sans intention malveillante explicite, mais malveillante tout de même. Alors, en tenant ensemble ces deux récits, les Évangiles nous donnent une vision, à mon avis, complète de la condition humaine. Le mal peut être personnel et brutal, mais il peut aussi être structurel, banal et impersonnel, mais quoi qu'il en soit, mal dans son fondement. Alors, il est mal d'une manière ou d'une autre. Et c'est dans ces deux réalités-là que le Christ accepte d'entrer dans le monde. Il est le sauveur face aux tyrans visibles et le sauveur au cœur des systèmes qui écrasent notre monde et qui peut même écraser dans l'ombre, dans le secret. Dieu n'épargne pas son propre Fils à cette condition-là, mais il accepte que l'entrée du Sauveur dans l'histoire soit immédiatement marquée par la contrainte et la vulnérabilité. Le début du récit de Noël, dans ce récit-là, Luc ne dénonce pas l'empereur précisément, comme je l'ai dit, mais dévoile une logique du pouvoir humain, si on peut l'appeler comme ça, à laquelle Dieu répond non pas par une force qui serait concurrente, en envoyant un empereur de la même force que César, mais dans l'incarnation de son Fils, rempli d'amour et de grâce pour le monde qui vient sauver, pour le monde sous sa domination à lui. Alors, le déplacement vers Bethléem n'est pas le résultat d'un choix politique, mais il est imposé par ce décret-là, politique plutôt, il est imposé par un décret impérial étranger à la foi d'Israël, et sans lien avec les promesses bibliques. Alors, quand il annonce ce décret-là, l'empereur n'est pas en train de dire « Ah, ben ça fait un lien avec les promesses d'Israël. » Mais pourtant, Luc nous fait entendre ici une affirmation qui est très forte. C'est-à-dire que la souveraineté de Dieu ne dépend pas de la justice des décisions humaines. Le décret n'est ni voulu ni approuvé par Dieu, mais il n'empêche pas Dieu d'agir quand même au travers de ce décret-là. Alors ainsi, sans que l'Empire lui-même ne le sache ni ne le veuille, le déplacement forcé de Joseph et de Marie conduit à l'accomplissement de la promesse qui a été faite dans l'Ancien Testament. Jésus naît à Bethléem, comme l'annonçaient les Écritures. Non pas parce que le pouvoir humain agit justement, mais parce que Dieu demeure fidèle à sa parole. Luc nous rappelle alors que Dieu n'attend pas des conditions idéales pour accomplir son dessein. Il agit dans l'histoire telle qu'elle est, marquée par la contrainte et la fragilité. Et c'est précisément là que commence le salut du monde. Après l'imposition du décret impérial sur le jeune couple, le texte biblique déplace notre regard. Il nous éloigne du centre des pouvoirs de ce monde-là, de Rome, et nous conduit dans les champs, de nuit, auprès des bergers. Les bergers ne sont ni des figures idéales, ni des personnages prestigieux, mais pourtant Dieu choisit de se révéler, plutôt l'événement central du salut de l'histoire de l'humanité par ces gens-là. Alors, il aurait pu se révéler par les gens religieux qui enseignaient la loi dans le temple, mais il a choisi des personnes marginalisées de la société pour nous annoncer l'Évangile. Leur mode de vie à ces bergers-là était nomade. Leur éloignement des villes et des lieux de culte les exposait à la suspicion du peuple. Ils sont souvent associés à l'impureté rituelle, puisqu'ils ne peuvent observer régulièrement les prescriptions du culte. Dans certaines traditions juives anciennes, les bergers sont jugés peu fiables comme témoins juridiques. Un texte rabbinique aussi dit « On ne reçoit pas les témoignages des bergers ». Dans d'autres récits rabbiniques, on souligne le mépris social qui est attaché à certaines professions marginales, dont celle des bergers. Alors, ce texte-là reflète une perception qui est durable. Le berger est celui qui vit en périphérie de l'ordre religieux et social établi. Luc ne cherche pas à noircir excessivement le portrait des bergers, mais il se contente de rappeler qu'ils ne sont pas des candidats évidents pour une révélation divine. Alors ça sort de l'ordinaire. Mais pourtant, Dieu utilise ces gens-là qui sont dans l'ordinaire, qui sont méprisés par l'ordre, par les Juifs de l'époque, pour annoncer son Évangile. La Bible nous dit que Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. 1 Corinthiens 1, 27. Alors, Luc nous montre que l'accès au salut ne passe pas par le statut social, la respectabilité religieuse ou la reconnaissance institutionnelle. La bonne nouvelle n'est pas confiée aux puissants ni aux experts de la loi, mais à ceux qui sont disponibles, attentifs à la voix de Dieu. Cette révélation au berger anticipe déjà un thème qui est majeur dans Luc. Dieu se tourne vers les humbles, vers les pauvres, les exclus, pour offrir son salut qui est gratuit. En choisissant les bergers comme premier témoin, Luc renverse les hiérarchies habituelles. Ce que la société juge comme indigne devient le lieu privilégié de la révélation divine. Le message de Noël proclame que Dieu ne parle pas là où le monde reconnaît l'autorité, mais là où il ne s'y entend pas. C'est dans la nuit, au milieu des vies ordinaires et fragiles, que la lumière de Dieu se manifeste. Et cette nuit, justement, Luc la souligne, des bergers passaient dans les champs, les veilles de la nuit pour garder les troupeaux. La nuit, ce n'est pas seulement un décor, mais c'est là où les certitudes s'estompent, les inquiétudes remontent, les tensions deviennent plus visibles. La nuit, c'est le temps où le monde paraît moins maîtrisable, moins rassurant, plus exposé au mal. Et c'est dans cette nuit-là, semblable, que l'Évangile situe l'annonce de la naissance du Christ. Non pas au palais, non pas au temple, mais dehors, dans les champs, là où l'on veille, parce qu'on n'a pas d'autre choix que de faire ainsi. Faut entendre la force aussi du contraste. Quelques versets plus tôt, Rome impose son décret. Le pouvoir compte, organise, déplace. Tout semble réglé, carré, cadré, maîtrisé. Mais Luc nous montre l'envers du décor. Pendant que les puissants administrent le monde à distance, des hommes sans prestige veillent dans le froid, dans l'insécurité, exposés au danger et à la solitude. Certains dorment sous la protection de structures et des murs. D'autres vivent dans de la fragilité. Et c'est à ceux-là que Dieu parle. Comme si Luc nous rappelait que le salut de Dieu ne commence pas là où on se croit fort, chez ceux qui pensent tout contrôler, mais chez les gens simples. Non pas chez ceux qui se pensent en sécurité, mais chez ceux qui savent qu'ils ont besoin d'être gardés par le souverain berger. Que Dieu a besoin d'être leur secours. Alors c'est là que la parole de l'ange prend son poids. Ne craignez pas. Cette parole n'abolit pas la peur comme si elle n'avait pas raison d'être, mais c'est plutôt le contraire. La peur est pleinement compréhensible dans une nuit comme celle-là, car elle naît de la manifestation de la gloire du Seigneur lorsque l'orange l'apparaît partout où il y a des manifestations divines dans l'Écriture, les hommes qui reçoivent ces manifestations-là sont dans la crainte. Alors, lorsqu'il dit que l'ange se révèle à ces hommes-là et que la gloire du Seigneur resplendit, alors c'est normal que les hommes soient dans la crainte. Alors, la peur est compréhensible, mais Dieu est un Dieu qui est rassurant. Il sait que nous sommes formés que de poussière. Il vient nous rencontrer là où nous sommes et c'est ce qu'il fait aussi avec les bergers. Quand l'ange dit « Aujourd'hui, un sauveur vous est né », Luc donne plus qu'une indication de date. Le mot « aujourd'hui » est chez lui un mot théologique majeur. En plus de préciser un moment dans le calendrier, il désigne principalement le temps où Dieu agit, le temps où sa promesse cesse d'être attendue dans le futur pour devenir une réalité maintenant. Ce n'est plus un futur, un lointain, un idéal, mais c'est maintenant. Dans l'Évangile de Luc, ce mot revient toujours au moment décisif. Par exemple, à Nazareth, lorsque Jésus lit le prophète Ésaïe dans la synagogue, il déclare « Aujourd'hui, cette écriture est accomplie. » Luc 4, 21. La promesse n'est plus seulement lue ou commentée, mais elle est accomplie sous les yeux de ceux qui l'entendent. Plus tard, chez Zachée, Jésus affirme « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. » Luc 19, 9. Le salut rejoint un homme précis dans une maison précise. Et jusqu'à la croix, au brigand condamné, Jésus dira « Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Luc 23, 43. Alors, même à l'heure de la mort, même dans l'échec qui peut être apparent pour les hommes, le salut n'est pas différé, n'est pas pour plus tard, mais il est donné dans le présent. Alors, le sens du mot « aujourd'hui » est toujours le même. L'aujourd'hui marque le passage de l'attente On attendait quelque chose à l'accomplissement maintenant. Il signale une irruption de Dieu dans l'histoire humaine, dans le maintenant de ceux qui l'entendent. Alors, lorsque l'ange proclame aujourd'hui au berger, il affirme que la nuit n'a pas le dernier mot. Ce n'est pas un jour idéal et ça n'a pas besoin de l'être non plus. Ce n'est pas un moment paisible, c'est une nuit marquée par la domination impériale, par la marginalité. Et pourtant, c'est précisément là que Dieu choisit pour entrer son Fils dans le monde. C'est qu'aujourd'hui, il vous est né un Sauveur qui est le Christ, le Seigneur. Alors pour nous aussi, aujourd'hui, l'aujourd'hui de Dieu a également bouleversé nos vies. Le Seigneur est venu dans notre quotidien. Il nous a touchés par sa parole. Il nous a saisis par la main pour nous amener à Dieu son Père. Et pour ceux qui n'ont pas encore vécu cet aujourd'hui, Dieu dit, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Venez à lui. On peut s'imaginer que le salut viendra plus tard, quand tout ira mieux, quand la situation sera réglée, quand nous serons plus solides dans notre compréhension des choses, plus dignes, plus vieux, parce que là, j'ai encore plein de choses à vivre. Mais aujourd'hui, détournez-vous des idoles. Détournez-vous de vos péchés. Et tournez-vous vers le Sauveur du monde. L'aujourd'hui de Dieu, l'action de Dieu vient à notre rencontre aujourd'hui, maintenant. Il ne faut pas attendre un moment plus favorable qu'un autre, un moment plus favorable va s'ouvrir à nous. Il ne faut pas attendre des meilleures circonstances. Mais il faut reconnaître que là où nous sommes, maintenant, dans la situation dans laquelle nous sommes, fragile, confuse, peut-être incomplète, Dieu peut et Dieu veut agir. Le message de Noël nous rappelle de cesser de remettre la foi plus tard, à ne pas repousser la grâce à un avenir qui est peut-être idéalisé. Mais il faut se rappeler et reconnaître que Dieu n'a pas attendu que les circonstances soient favorables pour envoyer son Fils. Il n'a pas attendu que la paix règne sur la terre, que la peur disparaisse ou que l'humanité soit à sa hauteur. Il est venu dans un monde traversé par la violence, par l'injustice, la faiblesse. Il s'est incarné lui aussi dans la faiblesse. Petit bébé, pas dans un hôpital, mais dans une crèche au froid, comme seul système de chauffage, les animaux qui l'entouraient. De la même manière, Dieu n'attend pas que nos vies soient parfaitement ordonnées pour y entrer. Il agit là où nous sommes, maintenant. Vivre l'aujourd'hui de Noël, c'est donc apprendre à répondre à Dieu sans remettre à plus tard. C'est dire, Seigneur, puisque tu agis dans le maintenant, je veux être disponible maintenant. Même quand tout n'est pas clair, même quand la nuit est encore là, et surtout au travers des difficultés, la parole de Dieu nous invite aussi à regarder les choses autrement. Là où nous voyons surtout des limites ou des échecs, Dieu peut faire naître quelque chose de nouveau. Le beau message de Noël nous apprend que Dieu ne se donne pas à ceux qui contrôlent leur vie, mais à ceux qui acceptent de le recevoir. C'est là que la paix de Noël commence. Dieu nous apprend à regarder autrement ceux que notre société met à l'écart, qui sont nos bergers d'aujourd'hui, ceux qu'on juge peu fiables, peu importants, gênants, invisibles, le travailleur de nuit dont personne voit le service, la mère monoparentale épuisée, l'immigrant isolé, la personne en itinérance, le détenu en prison, celui qui vit avec une maladie chronique, le croyant discret qui n'a pas de plateforme, qui n'a pas de voix, pas de prestige. Luc nous dit de ne pas mépriser ceux que Dieu choisit comme premier témoin. Lorsque j'ai reçu l'Évangile, c'est une femme qui travaillait chez Tim Hortons et un homme qui travaillait chez Walmart. Ils m'ont annoncé l'Évangile. Ils étaient des gens, tout comme ces bergers. Et puis, Dieu s'est manifesté. Il a permis que j'entende la parole de Dieu au travers de ces gens qui semblaient méprisés de nos sociétés. Non pas, c'était pas des colonels, des gens prestigieux, des Césars de l'époque, mais c'était des gens humbles, des gens de peu d'apparence, mais c'est au travers de ces situations comme ça que Dieu se manifeste et que la gloire lui revient à lui seul. Alors, une église doit apprendre à écouter ceux qui sont en bas, à leur faire de la place, à reconnaître que Dieu se plaît à agir au travers d'eux. Alors, je vais peut-être un peu loin dans ma prochaine application, mais je vais la faire quand même parce que je crois qu'elle est pertinente. Les bergers ne sont pas happés par les multiples distractions du monde. Leur veille n'a rien d'extraordinaire ou de spirituellement spectaculaire. C'est une veille ordinaire, imposée par la réalité de leur travail et par les exigences de la vie. Ils veillent dans le silence, et c'est dans cette disponibilité simple-là que la parole de Dieu les rejoint, que Dieu se manifeste à eux. Dans un monde saturé de bruit, de sollicitation, de distraction, apprendre à veiller, à être en silence, ça peut être vraiment difficile. Nos journées sont remplies, nos esprits sont encombrés, nos silences sont presque inexistants. Même les temps des fêtes qui devraient être des repos, un repos pour nous, devient souvent un temps d'agitation supplémentaire. Faire les courses, les obligations, les écrans, des attentes à remplir par la famille. Mais pourtant, le message de Noël est tout autre. Prenons du temps durant les fêtes, un temps pour nous arrêter, un temps pour nous reposer vraiment, un temps de silence, loin des distractions. Non pas pour fuir le monde, on n'est pas des moines, mais pour redevenir attentif, pour laisser retomber le bruit, pour créer un espace où la parole de Dieu peut être entendue. Les bergers, veillant dans la nuit, ils n'étaient pas distraits, ils étaient présents là. De la même manière, veiller aujourd'hui peut vouloir dire ralentir, fermer un instant ce qui nous sollicite sans cesse, comme les téléphones. Offrir à Dieu un peu de notre attention, même beaucoup devrions-nous. Prendre le temps de veiller, c'est dire, Seigneur, au milieu de ce monde bruyant et ce temps des fêtes qui est chargé, je veux te laisser une place. Et c'est souvent là, dans ce repos, au pied de la parole de Dieu, que la joie véritable naît. Et pour nos bergers, cette veille débouche immédiatement sur une décision. Lorsque les anges s'éloignent, ils se disent les uns aux autres, « Allons jusqu'à Bethléem et voyons ce qui est arrivé, ce que le Seigneur nous a fait connaître. » Verset 15. Les bergers ne restent pas passifs. Ils ne se contentent pas d'une expérience spirituelle émouvante qui ont vu des anges apparaître devant eux. La parole entendue appelle à un déplacement. Ils passent de l'écoute à l'obéissance. De la veille à la marche. Veiller chez Luc conduit toujours à répondre. Le texte est construit de cette manière-là. Veille des bergers, parole reçue, décision prise. Arrivé à Bethléem, ils trouvent l'enfant couché dans la crèche, exactement comme cela leur avait été dit. Et après avoir vu, ils racontent. La veille devient un témoignage. La Bible ne nous dit pas que les bergers deviennent des prédicateurs officiels de l'Évangile, ni des figures de pouvoir religieux. Ils sont simplement ce qu'ils peuvent. Ils disent ce qu'ils ont vu et ce qu'ils ont entendu. Et cela suffit pour susciter l'étonnement dans le cœur de ceux qui ont entendu ces paroles, dont Marie et Joseph. Marie gardait toutes ces choses et les repassait dans son cœur, verset 19. Le texte nous laisse croire que ce que Marie conserve dans son cœur ne se limite pas au témoignage des bergers, mais elle met en relation ce qu'elle avait entendu des bergers et ce qu'elle avait reçu lorsque l'ange entra chez elle, quand il dit au chapitre 1, « Je te salue, toi qui as une grâce, à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » L'ange lui dit, « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. » Alors, les paroles des bergers confirment ce que l'ange lui avait dit plus tôt, un chapitre précédent, avant même que l'enfant soit créé dans son ventre. Alors, Luc présente Marie non pas comme quelqu'un qui comprend tout immédiatement, elle ne parle pas beaucoup, mais elle accepte de demeurer dans la tension entre ce qui a été annoncé, ce qui lui a été annoncé, et ce qu'elle voit, et des paroles qu'elle a reçues des bergers, peut-être un peu moins d'un an plus tard. Et à la fin de notre texte, les bergers retournent à leur vie ordinaire. Ils ne quittent pas leur métier, mais ils ne changent pas de statut social non plus, mais ils retournent en glorifiant et en louant Dieu, verset 20. La rencontre avec le Christ ne les retire pas du monde, mais il les envoie dans ce monde-là, transformé de l'intérieur. Contrairement à l'Empire qui impose ses décrets, qui exige l'obéissance et produit la soumission, la naissance de Jésus, elle, ne contraint pas. Elle engendre une réponse libre. Elle fait naître une communauté qui est vivante, composée d'hommes et de femmes, qui écoutent la parole de Dieu et qui y répondent avec joie, qui méditent ce qu'ils ont vu et entendu, qui louent, qui retournent dans leur quotidien portés d'une espérance nouvelle. La veille chrétienne n'est pas l'angoisse ni la fuite du monde, mais c'est d'être attentif à ce que Dieu désire nous révéler. Ça consiste à rester disponible à la parole de Dieu, à le laisser conduire nos pas, puis à retourner dans la vie ordinaire, portée dans des louanges, porteurs de louanges, en glorifiant Dieu notre Sauveur dans tout ce que nous faisons, que ce soit de témoigner en parole aux gens qui nous entourent ou en action. Veiller, c'est aussi dire « Je veux rester ouvert à ce que tu fais pour moi dans mon quotidien et surtout à ce que tu veux faire aux autres par moi. » Et c'est la finalité du message de Noël. La naissance de Dieu fait homme parce que Dieu veut rejoindre l'humanité là où elle est et la transformer de l'intérieur. Si la deuxième personne de la Trinité s'incarne dans une crèche, c'est afin que nul ne puisse se croire trop petit, trop pauvre ou trop éloigné pour être rejoint par Dieu lui-même. Si le Sauveur se donne dans la fragilité, c'est pour que des vies fragiles puissent être relevées par lui. Et si le Christ vient à notre rencontre, ce n'est pas pour nous laisser tels que nous sommes, mais pour nous faire entrer dans une vie nouvelle, réconciliée, tournée vers Dieu et notre prochain, pour la gloire de son nom, parce que lui seul est digne d'être adoré aujourd'hui et à toujours. Amen. Seigneur, notre Dieu, ta parole, Seigneur, touche nos cœurs. Seigneur, il y a un jour où tous ici peuvent dire qu'il y a eu un aujourd'hui, un moment très précis où ils se sont tournés vers toi, où ils t'ont donné leur vie, Seigneur. Tu t'es révélé à eux, tu as cogné à leur porte et ils ont ouvert la porte. Seigneur, notre Dieu, nous te prions pour que les nations, que tous ceux qui te sont destinés, entendent ta voix et dînent avec toi, Seigneur. Qu'ils aient la vie éternelle. Donne-nous de proclamer ta parole, d'annoncer cet évangile si glorieux qui a transformé des vies, que ce soit la vie de ces bergers, que ce soit la nôtre aujourd'hui, 2000 ans plus tard. Seigneur, ta parole ne cesse de nous impressionner, ne cesse de transformer des vies. Et elle va continuer dans les années à venir. Seigneur, nous te reconnaissons, Sauveur. Toi qui étais l'enfant emmailloté, tout petit, méprisable. Mais Seigneur, oh quel grand Sauveur, qui s'est identifié à notre faiblesse, qui s'est fait homme comme nous le sommes, afin de porter le péché du monde. Seigneur, tu nous as délivrés en portant nos péchés à la croix. Ton sang a coulé pour notre justification. Ô Seigneur, notre Dieu, toi seul es digne d'être loué, d'être glorifié en ce jour. Merci pour ce temps de Noël où nous pouvons annoncer cet évangile. Seigneur, Noël, c'est toi, c'est la bonne nouvelle d'un Sauveur qui s'est incarné. Donne-nous, Seigneur, de l'annoncer. Donne-nous d'aimer nos prochains. Oh, nous te remercions, Seigneur, pour tout ce que tu fais dans notre église locale, pour tout ce que tu fais au travers des églises du monde, Seigneur, en ce temps des fêtes. Oh, Jésus, nous te louons. Nous te remercions, Seigneur, d'avoir transformé nos vies, de nous avoir fait passer des ténèbres à ta lumière. À toi la gloire en toutes choses. Sois glorifié pour le restant de ce culte et le restant de cette année. C'est en Jésus, Père, que je prie. Amen.